France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que vous faites.
J'écris une lettre.
Ça ressemble plus à une demande de rançon.
Puis-je ?
Cher Dolores, C-H-E-R, ça c'est de la viande d'animaux. Je rencontre tous les habitants importants de la ville. Ils utilisent tous des mots compliqués. Mais tu me connais, je me débrouille. Je suis bon pour raconter des conneries. Il y a deux N dans le mot connerie. En même temps que j'écris cette lettre, je mange des chips et je commence à avoir très soif. Je lave mes bas et je les fais sécher sur la télé. J'aurais dû apporter le fer. Vous savez que c'est pitoyable, non? Dites-moi ce que vous essayez de dire.
Que ça me fait chier de pas être avec elle.
Bah dites ça alors. Mais d'une manière dont personne ne l'a dit auparavant. Et sans les obscénités. Écrivez ce que je veux dire. Cher Dolores, C-H-E accent grave R-E. Dolores, quand je pense à toi, je me remémore les magnifiques plaines de l'Iowa.
Elles sont pleines de quoi?
Les plaines. P-L-A-I-N-E-S, ces grands champs qu'on a vus.
Ah, ouais, c'était joli. Pleines.
Extrait de Green Book de Peter Farrelly, le film multi-oscarisé qui raconte cette traversée des États-Unis, ce road trip avec le pianiste noir Don Shirley, accompagné de son chauffeur blanc Tony. C'était l'inversion des rôles et des discriminations dans ce film. Pour l'occasion, Don Shirley, le pianiste, aide son chauffeur garde du corps à écrire une lettre à sa femme, le corrige, sorte de Cyrano des temps modernes. Ce courrier méritait effectivement un tout petit peu d'être amélioré. Bonjour Rachid Santaki.
Bonjour Olivia.
Vous écrivez tout seul les lettres à votre femme ?
Oui, je crois.
Vous n'êtes pas aidé.
Je n'ai pas encore de chauffeur.
Bon, dans ce cas-là, on se débrouille effectivement. Et bonjour Magnon Prigent.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée du jour, celle qui va devoir se coller à cet exercice compliqué qu'est la dictée orchestrée par Rachid Santaki. Vous êtes journaliste, vous êtes documentariste radio et vous venez de réaliser pour Arte Radio avec Lina une série de podcasts sur les évolutions du langage. Comment parlait notamment la jeunesse des années 60-70, question qui est posée à des jeunes d'aujourd'hui, comme dans les livres. Lui répond une jeune femme. Et elle, comment parle-t-elle? Et vous, comment parlez-vous? Quel est votre rapport à la langue française? On y vient, mais on y vient à travers cet exercice donc de la dictée. Quel extrait avez-vous choisi pour la dictée du jour, Rachid?
Aujourd'hui, pour Manon, vous aurez donc un extrait de L'ingénu de Voltaire.
Une première lecture pour se mettre le texte de cette dictée dans l'oreille, une seconde pour noter et une troisième pour corriger. C'est un conte philosophique, L'ingénu, pour mémoire. On va donc suivre le parcours de ce jeune homme dans la France de Louis XIV. Ingénu il l'est et il s'exclame. Ainsi commence cette dictée, Rachid.
C'est parti pour la première lecture, pour familiariser avec le texte. Alors. Quoi ? S'écria l'ingénu. Des édits rendus par ces gens-là. Ce ne sont point des édits, répliqua Gordon. Ce sont des contre-édits dont tout le monde se moquait à Constantinople et l'empereur tout le premier. C'était un sage prince qui avait su réduire les apédeutes, l'inostole, à ne pouvoir faire que du bien. Il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores avaient lassé de contre-édits la patience des empereurs, ses prédécesseurs en matière plus grave. Il fit fort bien, dit l'ingénu, on doit soutenir les pastophores et les contenir. Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon. Point final.
On respire, on boit une gorgée et on attaque.
Et on attaque ce
ça
jeu.
Ça va pour vous, maintenant les gens, prêtes ? Une gauchère, on n'a pas dit, mais pour la première fois, on a une gauchère avec nous.
Très bonne dictée à toutes et à tous. Quoi ? Point d'exclamation. Quoi ? Point d'exclamation. S'écria l'ingénu, virgule. Quoi ? Point d'exclamation. S'écria l'ingénu, virgule. Des édits rendus par ces gens-là, point d'exclamation. Je répète pour les plus jeunes. Quoi ? Point d'exclamation. S'écria l'ingénu, virgule. Des édits rendus par ces gens-là, point d'exclamation. Ce ne sont point des édits, virgule, ce ne sont point des édits, virgule, répliqua Gordon, virgule. Je vais épeler Gordon, donc G majuscule évidemment, O-R-D-O-N, virgule. Ce ne sont point des édits, virgule, répliqua Gordon, virgule. Ce sont des contre-édits. Ce ne sont point des édits, virgule, répliqua Gordon, virgule. Ce sont des contre-édits dont tout le monde. Ce sont des contre-édits dont tout le monde se moquait à Constantinople, virgule. Je répète, ce sont des contre-édits dont tout le monde se moquait à Constantinople, virgule. Et l'empereur, tout le premier, point virgule. Donc je répète, ce sont des contre-édits dont tout le monde se moquait à Constantinople, virgule, et l'empereur, tout le premier, point virgule, fin de la dictée pour les écoliers. C'était un sage prince, virgule, qui avait su réduire les apédeutes, l'inostole, je répète, qui avait su réduire les apédeutes, l'inostole, à ne pouvoir faire que du bien, point. Je répète cette phrase, c'était un sage prince, virgule, qui avait su réduire les apédeutes, l'inostole, à ne pouvoir faire que du bien, point. Il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores, il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores avaient lassé de contre-édits. Je répète, il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores avaient lassé de contre-édits. Et plusieurs autres pastophores avaient lassé de contre-édits. La patience des empereurs. Autres pastophores avaient lassé de contre-édits. La patience des empereurs, ses prédécesseurs, en matière plus grave, point. Il fit fort bien, virgule, dit l'ingénu, point virgule. Il fit fort bien, virgule, dit l'ingénu, point virgule. On doit soutenir les pastophores. On doit soutenir les pastophores et les contenir, point.
On va apprendre ce que sont des pastophores aujourd'hui.
Ah oui, c'est certain.
Ouais. Tout va s'éclairer soudain, je le sens.
Je crois qu'il y tient, Voltaire.
Il mit par écrit. Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions. Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon. Point final. Je répète cette dernière phrase. Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon. Point final.
Voilà pour cet extrait de L'ingénu de Voltaire. Quelques secondes toujours pour vous permettre de réfléchir à des points de difficulté que vous auriez pu rencontrer dans cette dictée. Pendant ce temps, j'explicite juste un tout petit peu ce texte, extrait donc de L'ingénu, cet ingénu qui nous vient du Canada et à travers qui Voltaire pose un autre regard sur notre société, celle de la France de Louis XIV. On y croise pas mal de personnages, mais dans ce moment-là de l'histoire, l'ingénu est enfermé, emprisonné à la Bastille, auprès donc de Gordon, qui est un janséniste. Dans ce livre, hein, Voltaire règle leur compte aux jésuites qui ont persécuté les jansénistes. Ici, c'est vraiment la figure du maître, puis celle de l'élève qui va dépasser le maître avec cet ingénu qui apprendra beaucoup à ses côtés, notamment dans ce chapitre 11. Il va développer son génie, comme est titré et le raconte ce chapitre donc de l'ingénu de Voltaire. Voilà, et maintenant, on va se faire une troisième lecture corrective ensemble. Alors, reprenons. « Quoi ?» s'écria l'ingénu, des édits rendus par ces gens-là. « Quoi ?» est-ce que vous mettez une majuscule après le point d'exclamation ?
J'en ai pas mis.
Parce que c'est une interjection. Et oui. Parfois, après les interjections, on en a. Et parfois, on n'en a pas. Et en l'espèce, vous aviez raison, il n'en fallait pas. Oui. C'est un point d'exclamation, virgule, et non pas une ponctuation forte, hein, comme un point. Donc, on se passe de majuscule. Et on avance avec cet ingénu que Voltaire écrit comme le français, le grec, l'espagnol, avec une majuscule, l'ingénu tout au long de ce texte et de cette dictée. I-N-G-E-N-U, l'ingénu de Voltaire. Des édits, comme l'édit de Nantes, E-D-I-T-S, on pense à éditer, pour ce mot qui revient deux fois, édit et contre-édit. Alors, des édits rendus, c'est masculin, hein, rendus R-E-N-D-U-S par ces gens-là, on est dans le démonstratif, C-E-S, on n'oublie pas le trait d'union entre Jean et là. Ce ne sont point là, on ouvre avec une majuscule en revanche, après ce point d'exclamation-là. Ce ne sont point, P-O-I-N-T, des édits, répliqua Gordon, ce sont des contre-édits, trait d'union entre contre et édit. On ne met pas de pluriel à contre, bien sûr, mais on n'oublie pas le S à édit, dont tout le monde se moquait, A-I-T, à Constantinople, C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-L-E, et l'empereur, tout le premier.
Alors j'ai mis une majuscule à empereur.
Et bien là, Voltaire n'en a pas mis.
Lui, il met une majuscule à ingénu, mais pas à empereur.
Voilà. On lui demandera
c'est
pourquoi. Tout le premier, T-O-U-T, le L-E premier, classique. C'est un sage prince. C'est un sage prince, il n'en met pas non plus à prince.
Non, ça j'en ai pas mis non plus.
Qui avait su réduire une question?
Non, j'ai une question. Après les points virgules, moi j'ai pas mis de majuscule non plus. J'ai trouvé qu'il avait un usage assez fréquent du point virgule.
Et vous avez pas. Non, vous avez bien fait. Okay. Jamais de majuscule après les points virgules.
Comme il l'utilisait quasiment comme... séparation entre deux phrases, je me suis demandé si...
Non, alors la règle, logiquement, c'est vraiment virgule, c'est majuscule après le point, pas de majuscule après la virgule, ni d'ailleurs après le point virgule. Et le point d'exclamation et d'interrogation, quand c'est des interjections, là, effectivement, la question se pose en fonction de l'emploi de cette interjection et de son sens dans la phrase. Qui avait su... Où en étais-je? Qui avait su réduire les... Ah ben on y arrive, mon Dieu, c'était un sage prince qui avait su, avait haïté, su réduire... Alors, Rachid, les apédotes, l'inostole.
éclairer ma lanterne. Parce
alors
que
non,
là, je suis
à
perdue.
P2, comment l'avez-vous orthographié?
Oui, parce que parfois, alors, à l'intuition, ça marche bien.
A2PE, enfin, E accent aigu, DEUTES.
Et presque, vous aviez un P en trop.
Un P en trop.
Effectivement. La P2 de celui qui n'a pas d'instruction.
D'accord.
Et donc, un seul P.
Ça fait penser un peu à pédant, à les AP d'eutes, mais voilà. Non, ces AP d'eutes, donc, des ignorants, et l'inostol. Alors ça, vous ne pouviez pas le savoir, parce que c'est un mot inventé, concocté par Voltaire. Hein.
Ouais. C'est une plaisanterie, en fait, pour désigner les docteurs de Sorbonne.
Mais ça viendrait peut-être du fait qu'ils étaient habillés de lin. Voilà, l'inostol, ces AP d'eutes, l'inostol.
Et donc l'inostol, L-I-N-O... S-T-O-L-E-S.
Parfait.
Très bien.
À ne pouvoir faire que du bien. Pas de difficulté, je crois, particulière. Il savait, V-A-I-T, que ces messieurs-là, pas de majuscule à messieurs, M-E, 2-S, I-E-U-R-S, et là, on n'oublie pas le trait d'union,
ouais,
avec la et l'accent grave sur le A. Et plusieurs autres pastophores, Rachid.
Pastophores, maintenant, comment...
Je l'ai fait à l'instinct, P-A-S-T-O-F-O-R-E-S.
Alors, c'est P-H, du coup.
Ah oui, d'accord.
Pastophore. Et donc, c'est un prêtre égyptien de l'Antiquité, portant des statuettes représentant des dieux lors des cérémonies.
D'accord.
Donc, pastophore, je pense qu'on saura ce que c'est.
Et le P-H, comme dans anaphore ou autre. Les pastophores et plusieurs autres pastophores, donc S à plusieurs, S à autres, S à pastophore. Avait, du coup, on n'oublie pas de le mettre au pluriel, cet auxiliaire avoir, A-V-A-I-E-N-T, la C, vous accordez ou pas?
Non.
Vous faites bien. Et ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores avaient la C, le complément d'objet ne précède pas le verbe ni l'auxiliaire, avoir, donc on n'accorde pas la C, L-A-2-S, et de contre est dit, la patience des empereurs, ses prédécesseurs, qu'est-ce que vous doublez dans ce mot? Quelque chose.
D'un prédécesseur, 2S.
Exactement. Et c'est un possessif, hein, juste avant.
Ouais. S-E-S. J'ai hésité sur le sens, mais il me semblait qu'il avait lassé ses prédécesseurs.
En matière plus grave, au singulier pour l'ensemble. Mm-hmm. On revient à notre passé simple. Il fit fort bien, virgule, dit l'ingénu. Fit, pas d'accent circonflexe, parfois on en met F-I-T. On doit soutenir les pastophores, nous y voilà, et les contenir avec cet infinitif. Il mit, le passé simple du verbe mettre, par écrit, on n'oublie pas le T à écrit, beaucoup d'autres réflexions, singulier, pluriel.
Pluriel.
Oui. Qui épouvantèrent, vous l'appelez comment?
Et accent aigu, P-O-U-V-A-N-T, E accent grave, R-E-N-T.
Voilà. Combien de fautes pour vous du coup?
J'en ai fait donc trois AP d'eutes qui étaient deux fois dans la dictée.
Et... Non, une seule fois le AP d'eutes.
Non, pardon, c'est AP d'eutes, ah oui, c'est pastophore.
Oui, mais fois. Ça vous en compte pas deux.
Ah bon?
Oh ben non.
Ah, j'ai mis deux fautes. Et je m'aperçois que j'ai pas mis de majuscule à ingénu.
Oh, oui.
Hein, c'est un demi-point ou c'est un point?
Non, en fait, on n'a pas de notes, en fait.
D'accord.
Vous n'avez pas de notes. Je me note aussi pour la lecture, du coup, les liaisons, les réclamations de nos auditrices et auditeurs. Mais du coup, ça reste un jeu et on parle même d'erreur, Olivia.
Oui, mais parce que c'est un jeu, moi j'ai plaisir.
Exactement.
Je l'ai pris très au sérieux.
À savoir que les invités font des fautes et ont des notes. Mais non, mais ça vous voulez pas. Bon, alors, comme vous le souhaitez.
Donc je mets deux erreurs alors. Pas de fautes.
Deux petites erreurs.
Très bien.
Exactement.
Et vous pouvez préciser belle faute? C'était le terme d'un invité, d'un de nos invités, qui parlait de belles fautes.
De belles fautes.
D'accord.
Elles sont belles. Et l'ensemble, l'intégralité de la dictée, donc de la correction, est disponible sur franceculture.fr. Manon Prigent, vous avez fait écouter des archives de l'INA à des jeunes d'aujourd'hui. Un langage parfois soutenu, un peu châtié, quand on remonte un demi-siècle en avant. Et peut-être une autre idée du bonheur, aussi d'autres préoccupations, comme on l'entend dans l'épisode 1 de ce podcast que vous avez choisi de réaliser pour l'INA Arte Radio, ou pour Arte Radio en partenariat avec l'INA. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure du tout fou le camp? C'était mieux avant.
C'était mieux avant.
Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi.
Oui, alors je l'ai appelé tout fou le camp d'une manière un petit peu malicieuse, on peut dire. la question, c'est pas tellement, je voulais pas essayer de savoir si vraiment tout foutait le camp, mais plutôt pourquoi on avait cette impression-là. Je suis plutôt partie de l'impression répandue, en tout cas autour de moi, que chaque fois qu'on écoutait une archive, on était assez surpris par, effectivement, les intonations, le vocabulaire châtié, l'usage des liaisons, etc. Et donc, je me suis dit, je vais pas tellement examiner les archives comme une spécialiste pourrait la faire, mais plutôt m'interroger sur la sensation que ça nous procure. Et en fait, en discutant autour de moi, autour de ces questions, je me suis aperçue qu'il y avait comme une sorte de figure qui revenait en permanence, c'était celle du jeune d'aujourd'hui. Et qu'en fait, on comparait en permanence la langue d'hier, pas tellement à notre langue aujourd'hui, mais à l'usage qu'en font les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis dit, eh bien, allons leur demander à eux ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils partagent cette même impression que nous? Est-ce que c'est pas quelque chose qui indique plutôt qu'en fait on vieillit d'avoir cette impression-là? Et voilà, qu'est-ce que eux, avec leurs oreilles fraîches, reconnaissent dans la langue que nous on n'entend pas forcément? Puis j'avais aussi envie, par ce biais-là, d'entendre la langue d'aujourd'hui. De me dire, bon, bah, voilà, c'est très facile de reconnaître la langue d'hier, d'essayer de la décrire, même si c'est des choses un petit peu impalpables à certains moments. Mais c'est beaucoup plus dur de caractériser la langue qui nous environne, dans laquelle on est baigné en permanence. Et donc je leur ai demandé à eux d'être un peu les experts de la langue d'aujourd'hui, en regard de la langue d'hier.
En vous écoutant, en les écoutant, on se rend compte aussi que la langue d'aujourd'hui est marquée par certaines béquilles dans l'oralité. C'est voilà qu'on multiplie le temps de reprendre notre souffle, mais aussi par les superlatifs, les super, les graves, les trop qui précèdent à peu près chaque mot. On n'utilise plus beaucoup de négations non plus, on les avale et on ne parle plus au passé simple. Ça, ce sont vos jeunes d'aujourd'hui qui le remarquent et le soulignent. Et c'est vrai que l'oralité devient peut-être à notre époque une voix propre, en tout cas un langage qui diffère de l'écrit. Et l'une d'elles vous dit, hein, dans le premier épisode, on n'est pas dans un bouquin, hein, aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, on a l'impression qu'il parlait comme dans les livres. Peut-être ça, ça a un peu évolué. Vous êtes allé interroger des linguistes aussi, en leur demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vous ont rassuré? En vous disant, comme beaucoup de nos invités, qu'au fond, le langage, c'est d'abord une matière vivante.
Exactement. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, effectivement, une langue, la différence entre une langue vivante et une langue morte, c'est qu'une langue vivante évolue. Elle évolue du point de vue du vocabulaire, de cette mélodie qu'on appelle la prosodie. Donc, chaque époque a une prosodie phare, on va dire, particulière, qui après se décline en fonction des accents, des régions, des milieux sociaux. Enfin, il y a évidemment plein de variantes, mais si on fait une sorte de grande partition musicale d'une époque, on peut reconnaître certains traits distinctifs. Donc, la langue évolue à ce niveau-là. Et ensuite, ils m'ont permis aussi de relativiser certaines choses, à savoir que bon, si on se fie aux archives vraiment purement radiophoniques, qui étaient celles auxquelles j'avais accès moi, c'est des archives qui sont marquées par une forte codification professionnelle. C'est des speakers qui sont formés à hyper articuler toutes leurs phrases, ce qui aujourd'hui tend à disparaître puisqu'on a plus confiance dans le matériel. On était aussi à une époque où enregistrer, c'était très lourd. Il fallait enregistrer des petites séquences, donc il fallait que les gens parlent très bien, très vite, de façon très synthétique, en répétant bien la question du speaker. C'est pour ça que souvent, même dans les micro-trottoirs, les personnes qui sont interrogées font des phrases extrêmement bien construites, disant « oui, j'ai trouvé également que ta-ta-ta-ta-ta » parce qu'ils reprennent la question qu'on leur pose. Donc il y a tout un tas de codes aussi qui tend à disparaître. Et là, le dernier point qui me semble être d'ailleurs le plus important, c'est la sélection des personnes qui étaient interviewées. Et qu'aujourd'hui, avec YouTube, avec nos téléphones, nos enregistreurs, on a accès à une matière enregistrée infiniment plus riche que celle à laquelle on avait accès dans les années 50, 60, 70. Et donc, on a accès à un plus grand échantillon de la population, ce qui fait que c'est pas uniquement des personnes qui étaient très éduquées, très citadines, très parisienne, qui s'exprime aujourd'hui.
Mais ça, on se rend compte dans cet extrait où le jeune raconte la norme en termes vestimentaires comme en termes langagières. Hein, être dans la norme, qu'est-ce que c'était? Et lui, il parle de sa casquette en tweed, de son blue jeans et de son pull jacquard. Il était lycéen et il se dit être habillé n'importe comment. Là où on se rend compte que les modes, comme la langue, hein, changent avec le temps. Ils se prennent grave au sérieux. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Il y a le « tu vois » aussi qui fait partie de ces expressions très courantes aujourd'hui. Ce qu'ils nous disent, c'est que le parler bien, ça change en fait d'une époque à l'autre. Hein, que la langue, elle n'est peut-être pas tant déformée aujourd'hui que plus libre aussi d'une certaine manière.
Oui. Moi, j'ai eu l'impression aussi, ils m'ont permis de comprendre quelque chose aussi sur les valeurs qui étaient associées à certains types de manières de parler. C'est-à-dire que moi, là, au début, où je voyais de l'éloquence, de l'élégance, eux, ils y voyaient du snobisme, quelque chose de surplombant. Et ils ont été nombreux, nombreuses à me dire qu'ils ne pourraient plus parler aujourd'hui comme ça parce que ça, c'est pas seulement parce qu'ils n'en sont pas capables, c'est parce que ça ne les intéresse pas de s'exprimer en ces termes-là, parce qu'ils trouvent ça complètement déconnecté de la réalité, snob, pour reprendre leurs mots. Et je me suis aperçue que c'était aussi un révélateur d'une certaine manière de s'exprimer dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi chez les personnalités politiques cette revendication du parler cash, du fait de parler sans enrobage, parce qu'on est plutôt dans une recherche de l'authenticité, la sincérité, là où on voit que les formes, les figures de style, ce serait un petit peu de l'enfumage. Et donc on est dans une recherche d'un vocabulaire ou de mots plus directs qui éliminent du vocabulaire un certain nombre de mots qui seront peut-être un petit peu plus précis.
C'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Rachid Sentaki, on l'entend aussi pour l'écrit. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'écrit, tout fout le camp de la même manière avec ce langage texto qui est apparu et nos manières d'écrire qui ont été transformées par cela, cette habitude de jouer beaucoup avec les abréviations?
Oui, aujourd'hui d'ailleurs, la langue, on est effectivement dans une oralité. En fait, les écrits sont moins présents dans ces nouvelles générations. En fait, l'écrit, c'est de la vidéo, c'est les audios aussi, les messages vocaux via les réseaux, effectivement. Et un autre élément qui est intéressant, c'est que la langue aujourd'hui chez les jeunes, elle est siglée. En fait, ils vont abréger, exemple, au KLM, etc., etc. Du coup,
okay, déjà, je vois.
Non, mais en fait, vous avez chez les jeunes, en fait, des abréviations. Uh-huh. C'est-à-dire que des mots vont être découpés. On va avoir uniquement des consonnes qui vont, voyelles, consonnes. Et du coup, il y a une idée de fulgurance dans le débit.
Exactement.
Dans cette oralité, c'est qu'on va aller toujours plus vite. C'est un peu à l'image de notre société. Et du coup, on a une langue qui est découpée, mais qui est quand même vivante. Après, c'est vrai qu'on a plus la base des écrits. C'est un réel enjeu et une réelle difficulté.
C'est une petite histoire ludique, en fait, et sonore du langage des jeunes pour savoir si vraiment tout fout le camp. Et donc, c'est le titre de ce nouveau podcast mis en ligne par Arte Radio en partenariat avec l'INA, où on se rend compte quand même que le langage en dit assez long sur nous et sur nos sociétés, les moments, les temps dans lesquels on vit. Mais c'est vrai que je n'avais pas réalisé, c'est intéressant ce que vous dites aussi, ça raconte aussi quelque chose de l'histoire des médias à travers ça et des évolutions dans ce domaine-là. Voilà, tout le monde peut écouter, c'est gratuit, c'est sur Arte Radio. Merci beaucoup à vous, Manon Préjean, venu vous prêter au jeu de la dictée. Merci Rachid Sentaki,
merci,
à la semaine prochaine.
Merci.
À très bientôt, merci à tous.
Ça serait bizarre un peu. Ça serait. Parce qu'en fait, c'est plus du tout la manière de parler de maintenant, quoi. Ça veut dire. Ça peut être. C'est facilement compréhensible parce que s'il parlerait vraiment comme. D'un langage trop soutenu ou autre, il se ferait pas vraiment comprendre. Et...
Ouais. Moi, je l'ai vu, ouais. Des fois, tu sais, ils font un peu semblant de parodier le. Genre, tu sais, comment on parle bien. Genre, un prof, par exemple, il va lui parler bien, et tout le monde va rire, c'est trop drôle, c'est trop marrant, mais c'est pas marrant, genre, tu vois, c'est, genre, à part si tu parles comme au 14e siècle, tu vois, bon, d'accord, c'est marrant, mais si tu parles juste en soutenu, langage soutenu, quoi, et que tout le monde se moque de toi, enfin, t'es sûr qu'après, tu vas pas le faire sérieusement, tu vois, mais c'est trop dommage.